Chers auditeurs, chères auditrices, ce matin nous continuons notre merveilleuse série L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Et nous arrivons au chapitre 2, en effet, de l'amour de Dieu. Et nous étudions, par rapport au Cantique des Cantiques, ce qui n'est pas tout facile, parce qu'il faut que le Saint-Esprit soit inclus là-dedans, et qu'il puisse nous inspirer. Car sans le Saint-Esprit, il serait absolument impossible de comprendre les mystères, aussi la façon dont Dieu a voulu nous transmettre ces mystères. Nous en sommes donc au chapitre 2, comme je viens de le dire, et nous commençons par le verset 1. Là, il est dit, selon les versions diverses, allemandes, françaises, anglaises, « Je suis le narcisse, la rose du Saron, le lys des vallées. » Les interprétations diffèrent concernant ces paroles. Beaucoup de commentateurs s'accordent pour penser que ces paroles sont prononcées par l'épouse, ce qui pourrait signifier qu'elle est la rose de Saron et le lys des vallées. Considérons donc les choses de cette manière et découvrons pourquoi il devrait être comme la rose du Saron et le lys des vallées. Saron est présent dans la Sainte Bible un certain nombre de fois. Dans le texte originel, pour chaque cas excepté ici, un article défini précède le mot Saron. On pourrait donc aisément dire « le Saron ». On pense généralement que le Saron et Saron sont deux endroits différents en Palestine. Mais est-ce si important d'en connaître l'endroit exact aujourd'hui? Ne suffit-il pas de se souvenir que c'était un lieu très connu des Hébreux? Dans leur voyage à travers le pays, de nombreux Israélites suivaient annuellement les fêtes religieuses selon l'endroit où se trouvait l'arche. Ils étaient donc forcément bien au courant des senteurs florales qui poussaient librement un peu partout où ils allaient. Nous ne savons pas si cette rose est l'une de celles que nous connaissons, ou l'une des nombreuses variétés de roses sauvages qui poussent en Syrie encore aujourd'hui, ou même s'il s'agit du narcisse. Toutes les fleurs sont belles aux yeux des voyageurs, et c'est un fait. Jésus veut être cette rose, oh oui, cette rose qui nous réjouit et nous réconforte quand nous sommes là et accablés au cours de ce voyage de la vie. Il désire que nos yeux restent fixés vers les collines et les hauteurs, vers les choses plus élevées où nous pourrons saisir un aperçu de sa beauté et être inspirés pour aller de l'avant. Ensuite, il est parlé le lys des vallées. Notre Seigneur a fait mention du lys des champs lors de ses entretiens avec ses disciples. Il leur expliqua que même si ces lys n'avaient ni travaillé dur ni tissé, ils étaient bien plus glorieux que toute la gloire de Salomon. Assurément, la signification de ces paroles est plus profonde qu'une description de Salomon, qui est l'auteur même de cet écrit. Elles sont d'inspiration divine et se rapportent à l'époux, au Fils de Dieu. Sa splendeur est éclatante, majestueuse et incomparable. Il est vraiment le lys des vallées. J'aime beaucoup ce pluriel, car il y a beaucoup de vallées dans cette vie, pas juste une seule, et dans chaque vallée, il est présent. Les lys poussent en abondance, même tout au fond des profondes vallées de Palestine. Ils y croissent rapidement. Le Seigneur accorde sa grâce avec abondance, même pour les expériences au fond des vallées profondes, selon Osée, chapitre 14, verset 5. Ainsi donc, malgré nos marches au fond de vallées de larmes, et malgré nos ascensions difficiles, continuons à chercher la rose que est Yeshua, le lys. Il n'est jamais bien loin, est toujours prêt à nous aider, à réconforter des pèlerins épuisés et pécheurs. Nous arrivons au verset 2, et je m'excuse un peu de ma voix, car je sors tout de même d'une pneumonie infectieuse, plus une angine. L'ennemi voulait vraiment m'éliminer et rendre impossible que je puisse continuer ce travail. Bien sûr, à 87 ans, tout est possible. Et on est plus vulnérable, physiquement en tout cas, à l'ennemi. Chers amis, le verset 2 nous dit « Oui, comme un lys parmi des ronces et mon ami parmi les filles. » Sans aucun doute, ce lys est absolument le même lys qu'au verset précédent. Nous revêtons la beauté du Seigneur et devenons semblables à lui qui nous a aimés. En effet, nous luttons pour lui ressembler et pour être revêtus de sa ressemblance. Alléluia. Pensez qu'il nous voit revêtus des robes de sa justice et de sa splendeur, sans que nous ayons travaillé dur, ni tissé pour aboutir à cette glorieuse robe de rédemption. Il nous envoie revêtus parce qu'il nous l'a donnée, tout comme il a donné leur robe aux lys des champs. Oui, comme un lys parmi des ronces. Donc, il nous voit même quand nous croissons parmi les ronces qui perce nos flancs. Il connaît notre corps et se souvient que nous ne sommes que poussière. Il connaît les épreuves, les tentations qui nous troublent et nous font souffrir. Il voit les vents adverses qui soufflent sur nous, qui nous poussent contre les ronces. Il nous voit également quand nous bronchons sous la douleur. Les ronces sont laides, douloureuse et n'inspire que mépris aux cultivateurs. Nous sommes peut-être actuellement en train de pousser au milieu des ronces, mais d'ici peu, le jardinier de nos âmes viendra. Et comment ? Et il ôtera ces ronces de notre flanc. Il ne leur permet de demeurer là que pour un temps. Dès qu'il voit que notre croissance spirituelle est freinée et gênée par leur présence, il vient soudain et enlève les ronces et les chardons qui nous affligent et nous arrêtent. si l'hélice ne peut pas lutter contre les ronces qui percent son côté, de même, nous sommes incapables d'affronter les trop nombreuses afflictions. Donc, nous devons les supporter, oui, et cela patiemment, sachant que cette vérité, rien ne peut l'assombrir. Il aime, il garde, il sait tout. Il donne le meilleur à ceux qui lui confient tout et le laisse choisir le meilleur pour eux. Et je répète, et le laisse choisir le meilleur pour eux, pour nous. Il n'y a donc ni gloire ni beauté dans les plantes épineuses. Par contre, voyez-vous, la splendeur du lys qui grandit au beau milieu attire l'attention. Il s'y distingue par sa majesté. Aussi quand notre roi regarde du haut des cieux, il nous remarque immédiatement parce que nous sommes différents de notre environnement. Prenons le verset 3 maintenant. Là, il est dit comme un pommier parmi les arbres de la forêt et mon ami parmi les jeunes gens. J'ai grand plaisir à m'asseoir à son ombre. Combien son fruit est doux à mon palais. Chers amis, imaginez-vous en train de marcher dans la forêt. Partout autour de vous, il y a des arbres, des épicéas, des ormes, des chênes, des érables et des pins. Soudain, vous sentez quelque chose qui se différencie de la verdure de la forêt. Vous percevez une délicieuse odeur pénétrante et vous comprenez que vous approchez d'un arbre fruitier. Et tout à coup, vos yeux aperçoivent un rouge éclatant. C'est un pommier. Bien sûr, si cela vous arrivait, vous vous arrêteriez immédiatement pour contempler cet arbre. Au milieu d'un verger de pommiers, vous ne l'auriez même pas remarqué, mais là, en plein cœur de la forêt, c'est inhabituel. Voilà donc un sujet d'étonnement. Voilà ce qui différencie notre Seigneur des autres. Combien de fois ne nous émerveille-t-il pas? Il s'est manifesté tant de fois là où nous ne l'attendions pas. Il nous stupéfie constamment. Son nom est merveilleux, car il est réellement prodigieux. Le texte dit « J'ai grand plaisir à m'asseoir à son ombre ». Bien entendu, c'est sous cet arbre que nous choisirons de nous reposer et nous nous asseoirions à proximité des pommes. Oui, combien son fruit est doux à mon palais. Qu'il est vraiment agréable de trouver un pommier. C'est encore plus plaisant de le voir gorgé de fruits. Plus surprenant encore, les fruits sont mûrs et ils sont prêts à être croqués. Les pommes sont tellement sucrées, aucune d'elles n'est acide, verte ou insipide sur cet arbre. Assurément, elles ne nous font pas grincer des dents. De plus, chaque bouchée est croquante et savoureuse. On entend presque le coup de dent à l'instant où vous mordez et croquez cette pomme si fraîche, si juteuse, si bonne et si brillante. Il est dit dans le psaume 34, verset 8, « Goûtez et constatez que l'Éternel est bon. » Psaume 34, verset 8. Au verset 4, il est dit « Il m'a conduite dans la maison du vin et il a déployé sur moi l'étendard de l'amour. » Cet étendard où cette bannière est en fait un emblème fabriqué à partir d'une image ou d'une devise quelconque et élevé au bout d'un mât. Chaque roi avait son blason. Ce pouvait être un emblème avec ou sans nom. C'était un signe d'autorité, de l'autorité royale généralement placée sur une haute colline. Notre roi des rois a également son emblème. Il fut fait en bois brut et placé sur la colline du Golgotha. Dieu y plaça son cher fils, son saint nom, le nom de Jésus. Fut écrit de la main même de pécheurs moqueurs, proclamant néanmoins ce que Dieu avait déclaré qu'il était vraiment Jésus, le roi des rois. Depuis plus de 2000 ans, cette croix est le symbole de l'autorité du chrétien et n'a jamais perdu son pouvoir. Elle est aussi l'emblème. Elle est la bannière ou l'étendard de l'amour de Dieu. Aucune autre bannière royale n'a jamais dépeint pareil amour pour le peuple comme cette croix rugueuse sur laquelle mourut le Sauveur, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a nous a donné son Fils bien-aimé pour nous sauver, pour te sauver. Toutes les fois où nous avons besoin d'un ami, il nous suffit de lever les yeux et de regarder sa bannière, son étendard d'amour infini et plein de compassion. Nous demeurons à sa table aussi longtemps que nous restons près de la croix. Nos pieds rebelles choisissent souvent d'éviter tout ce qui entoure la croix de Christ, mais à chaque fois que nous agissons ainsi, nous sommes contraints de renoncer au festin de la maison du vin auquel nos âmes aspirent pourtant. Nous arrivons au verset 5, là il est dit « Restaurez-moi avec des gâteaux de raisin, soutenez-moi avec des pommes ». Car je suis malade d'amour. Eh bien, les gâteaux de raisin étaient des mets très délicats, des marques et des gages d'affection souvent offerts aux idoles, malheureusement. L'épouse malade d'amour ne recherche que ces gages d'affection de celui qu'elle aime et ne désire aucune autre nourriture. Elle a mangé ses pommes, les a trouvées à son goût et ne désire rien d'autre. En vérité, en lui, en Jésus-Christ, nous sommes pleinement comblés. Les raisins, le fruit de la vigne, sont encore un témoignage de son affection pour nous. Ils nous rappellent le sang qu'il a versé pour nos péchés. Puissions-nous tellement vouloir être l'être aimé, l'amant de nos âmes, que nous ne chercherons que lui. Puissions-nous être comme l'épouse envers son époux? Que l'amour que nous lui portons soit aussi fort que celui d'une épouse malade d'amour. Ô Seigneur, mon Dieu, donne-nous un amour aussi passionné que celui-là. Nous arrivons au verset 6. Son bras gauche soutient ma tête et son bras droit m'enlace. Imaginez un peu cela. Les mains qui ont créé l'univers, qui ont mis les étoiles à leur place, qui ont façonné le soleil, les cieux et tout ce que nos yeux ont déjà pu voir, ou même pas encore. Ces mains-là, elles nous soutiennent. Nous sommes tenus à et nous sommes enlacés par les mains d'amour de notre Créateur. Que craindrions-nous? Oh oui, aucun mal. Aucun danger, aussi grand soit-il, ne saurait nous atteindre lorsque nous sommes protégés par son étreinte ineffable. Qu'avons-nous besoin d'amour terrestre et d'affection humaine quand nous nous souvenons qu'il nous environne tendrement de son affection? Sommes-nous lâches? Sommes-nous épuisés et tristes? Entendez les paroles de notre bien-aimé. Viens, dit-il, viens à moi trouver le repos. Pose ta tête lasse, pose-la. Pose la tête sur ma poitrine, exactement comme l'apôtre Jean, le disciple bien-aimé. Nous arrivons au verset 7. Ces filles de Jérusalem, oh, je vous en conjure, par les gazelles ou par les biches de la campagne, n'éveillez pas, non, ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne le veuille. Ne pouvez-vous pas simplement voir l'épouse assise près de son bien-aimé qui le couvre du regard alors qu'il dort paisiblement à ses côtés? Elle désire le garder près d'elle, à l'abri de tout danger. Elle redoute que quelqu'un ne vienne l'appeler loin d'elle, oui, loin de sa présence. Oh, que rien ne vienne s'interposer entre notre amour et notre sauveur. Oui, tenez tout autre intérêt, toute attraction à distance, même vos proches les plus chers, vos amis et vos parents peuvent rompre cette douce communion avec notre Seigneur. Sondez vos cœurs et notez bien la chose qui cherche à vous séparer de cette douce communion intime avec notre Seigneur. C'est en effet l'épouse qui a la responsabilité de protéger, de garder cette communion si intime avec son Seigneur. Ne tournez pas la tête de gauche à droite, par-dessus votre épaule, pour observer les autres qui font partie de l'épouse de Christ. Le doigt est pointé sur vous. Vous faites bien partie de son épouse. Et qu'en est-il de vous? Avez-vous gardé votre cœur pur? L'avez-vous protégé de toute autre affection? Si ce n'est pas le cas, alors réveillez-vous et sondez votre cœur. Quoi que vous trouviez qui ne lui est pas agréable, je répète, quoi que vous trouviez qui ne lui est pas agréable, ordonnez à l'instant à la chose de quitter votre vie au nom de Jésus, telle une mauvaise habitude, un bijou beaucoup trop voyant. Ensuite, le verset 7 dit « Par les gazelles ou par les biches de la campagne ». Eh bien, la gazelle est une sorte d'antilope pleine de charme et à ce titre très appréciée. C'est un animal rapide, aux pieds légers. Vous pouvez voir cela dans Deutéronome, au chapitre 12, verset 15 et le verset 22. J'ai dit de Deutéronome au début de votre Bible. La biche est la femelle du cerf. Elle est connue pour sa douceur, sa pudeur, sa recherche d'affection maternelle, sa timidité et son caractère craintif. Le cri de l'épouse résonne partout. Ce qui est charmant, doux, pudique, les choses auxquelles j'aspire et que j'aime, je t'exhorte de ne pas agiter et réveiller mon amour jusqu'à ce qu'il soit prêt. Verset 8. J'entends mon bien-aimé, oui, le voici. Il vient, sautant sur les montagnes et brandissant sur les collines. Il a bien dit, et bondissant sur les collines. Aussi, je répète ce verset 8 pour ne pas l'estropier. J'entends, mon bien-aimé, vous l'avez compris, c'est notre Sauveur et Seigneur. Et voici, il est là, il vient, il saute sur les montagnes et il bondit sur les collines. Alléluia, alléluia! Ce cri va bientôt jaillir et résonner. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Saint Matthieu, chapitre 25, verset 6. Le Seigneur lui-même descendra du ciel. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16. Chers frères et sœurs, il ne faudra pas longtemps avant que nos oreilles entendent la voix de notre bien-aimé. Depuis combien de temps attendons-nous de voir son visage, d'entendre sa voix? Ce jour-là, nous entendrons sa voix quand il bondira par-dessus les montagnes, sautant au-dessus des collines. Il viendra remplir de joie à l'idée de nous ramener à la maison. Bondir et sauter sont des termes qui expriment une grande allégresse. La voix de mon bien-aimé, aucune chorale n'a jamais chanté un tel chant. Aucune voix ici-bas ne s'est jamais exprimée avec autant de douceur. Aucun ange dans les cieux ne saurait être comparé à la merveilleuse voix de notre bien-aimé. Son cri, quand il viendra nous chercher, sera entendu par tous ceux qui l'attendent. Comme mon cœur te louera avec un ravissement pour avoir sauvé un pécheur tel que moi. Oui, car sans Jésus-Christ, j'étais perdu pour l'éternité. Et cela, je peux vous dire, c'est vrai. Oui, l'ennemi voudrait nous éliminer avant l'heure. Il voudrait nous empêcher de servir notre Sauveur et Seigneur, comme quand il a voulu m'éliminer ces dernières semaines par une bronchite, d'abord, ensuite une pneumonie infectieuse, et par-dessus tout, ou si vous voulez la cerise sur le gâteau, une angine terrible, pour que ma voix soit totalement éliminée, ne pouvant plus parler du tout. Mais j'ai décidé de relever le défi, pas par moi-même, car nous sommes rien du tout, nous sommes impuissants, mais par Jésus-Christ notre Sauveur et Seigneur, tout devient possible. Et il m'a dit, crains rien, même si ta voix est brisée, je serai avec toi pour que tu puisses continuer de me servir. Nous arrivons au verset 9. Permettez-moi de boire une toute petite goutte d'eau. Rassurez-vous, ce n'est pas de la vodka. Voilà. Nous arrivons au verset 9. Là, il est dit, mon bien-aimé ressemble à la gazelle ou à un jeune cerf. Et le voici, il est là. Il est là derrière notre mur, guettant par les fenêtres et lançant des regards à travers les treillis. Le cerf fait partie des animaux purs. Comme je l'ai déjà fait remarquer, ces animaux sont connus pour leur vélocité. Voici, je viens bientôt, est-il dit dans Die Offenbarung, donc Apocalypse chapitre 3, verset 11. Ça, c'est l'avertissement du Seigneur à notre, à votre intention. Nous pouvons parfois nous demander combien de temps encore nous devrons attendre. Nous pouvons même avoir l'impression qu'il a peut-être oublié son épouse. Nous pouvons également être tentés de nous joindre au moqueur ou de penser dans le secret de nos cœurs, « Oh, où est cette fameuse promesse de son avènement ?» Mais nous sommes loin de réaliser qu'il viendra brusquement, comme un voleur dans la nuit, comme une gazelle ou un jeune cerf. D'un seul coup, il sera là, et sans faire de bruit, il apparaîtra à nos côtés. Aussi que celui qui commet le mal continue à mal agir, que celui qui est impur continue à s'adonner à l'impureté, mais que celui qui est juste continue à faire ce qui est juste, et que celui qui vit pour Dieu continue à vivre pour lui. Apocalypse chapitre 22, verset 11. Quand le chasseur chasse le cerf ou la biche, il doit avoir son arme prête à tout temps, à tout moment. Quand il aperçoit sa proie, il n'a plus le temps de nettoyer son arme et d'acheter des munitions. De même, soyons prêts, chers amis, car nous ne connaissons ni le jour ni l'heure de sa venue. Ensuite, le verset 9 nous dit « Guettons par les fenêtres ». Assurément, le Seigneur observe en ce moment même à travers les fenêtres du ciel. Il aspire à venir nous chercher et nous réunir auprès de lui. Que c'est merveilleux! Comme j'aime penser qu'il nous observe par les fenêtres des cieux, regardant pour voir si nous regardons dans sa direction. Ensuite, il est dit, et lançons des regards à travers les treillis. Aujourd'hui, chers amis, nous ne voyons que d'une manière indirecte, comme dans un miroir. Alors bientôt, oui bientôt, nous verrons directement. Dans le temps présent, je connais d'une manière partielle. Mais alors bientôt, je connaîtrai comme Dieu me connaît. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 2. Il semble parfois que nous puissions entrevoir le Seigneur à travers les treillis. Par moments, il se manifeste, oui, il se manifeste à nous, et nous sommes ravis quand nous prenons conscience de sa présence et de sa puissance. Même tout cela n'est absolument rien comparé à la pleine révélation que nous aurons de lui et qui nous attend encore. Plus nous le contemplons, plus nous sommes transformés à sa ressemblance. Et nous tous, qui le visage découvert, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à son image, dans une gloire qui ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit Saint. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Si en le voyant, pour ainsi dire, comme dans un miroir ou à travers les treillis d'un mur, nous pouvons revêtir la même image à la ressemblance de sa gloire. À combien plus forte raison, je vous le demande, serons-nous semblables à lui quand nous le verrons tel qu'il est? Lorsque les treillis seront ôtés, nous le verrons vraiment face à face. Face à face, je pourrai le voir, bien au-delà du ciel étoilé, face à face, dans toute sa gloire, je le verrai pour l'éternité. Même si cela signifie que l'ange de la mort doit venir pour ôter le treillis, nous ne redoutons rien. car tout ce qui ôte ce mur, cette barrière, est l'ami de nos âmes, car nous verrons, enfin, nous verrons le Christ Jésus, notre roi bien-aimé. Nous arrivons au verset 10. Là, il est dit, « Mon bien-aimé me parle, et il me dit, « Lève-toi, lève-toi, mon ami, et viens donc, ma belle. » Comme j'ai souvent contemplé le ciel et essayé d'imaginer le retour du Seigneur, j'ai ressenti son esprit vivifiant en moi, ce qui m'a fait souvent penser que ce serait très facile de monter dans le ciel à sa rencontre. Vous est-il jamais arrivé d'être assis dans un avion au bout de la piste d'envol, tandis que le pilote teste ses instruments en augmentant la vitesse de chaque moteur séparément, et essayant ainsi ses magnétos et vérifiant tous les contrôles? C'est comme si l'avion vibrant de vie allait bientôt décoller avant même que ne vienne le feu vert de la tour de contrôle. Eh bien oui, chers amis, d'une certaine manière et à un faible niveau, c'est une image de la pression de l'énergie du Saint-Esprit qui habite en nous, prêt à vivifier nos corps mortels en prévision de l'enlèvement des saints. Attention, nous devons attendre l'autorisation de la tour de contrôle avant de partir pour nous envoler vers les cieux. Ô chers auditeurs et auditrices, es-tu fatigué d'attendre? Le temps t'a-t-il paru trop long? Il ne tardera plus maintenant. Bientôt, l'appel venant de la tour de contrôle va retentir et elle te dira « Lève-toi, mon amour, lève-toi, ma bien-aimée, et monte ici. » Personne ne sait quelles seront les premières paroles du Seigneur lorsque il descendra des cieux pour revendiquer son épouse. Mais il se peut qu'il crie les mots mêmes que notre oreille rêve d'entendre. Nous arrivons au verset 11, et là il est dit « Car l'hiver est passé, et les pluies ont cessé, et leur saison est finie. » En effet, l'hiver, avec ses vents froids et mordants, est passé. L'hiver, avec la mort et la misère qu'il apporte à tant de monde aux alentours, est terminé. Terminé les bronchites, les pneumonies infectieuses, les angines, avec le réchauffement qui nous fera du bien. Et c'est fini, fini de lui pour l'éternité. Car en effet, notre vie ici-bas, je dis bien notre vie ici-bas, loin de la présence immédiate de notre Seigneur, elle ressemble pour nous un peu à l'hiver. Vous demandez-vous pourquoi les choses sont souvent si difficiles à supporter? Êtes-vous surpris ou surprise des souffrances que vous devez endurer? J'en sais un peu quelque chose, et vous aussi. Les épreuves et les tests que vous devez traverser sont-ils si étranges? Nous sommes encore en hiver. Et après l'hiver, viennent les vents et les frimas de mars. Puis avril apporte la pluie, souvent, pas toujours avec du soleil, pour percer les nuages. Et vous regardez par la fenêtre et vous voyez le ciel obscurci de nuages. Il en est de même pour nous, car la vie nous réserve certes ces jours glacés et amers, les journées d'hiver, mais elle a également ces jours de cafards et de tristesse. Oui, on peut dire les journées de pluie. Dieu ne nous a pas promis des ciels qui seront toujours bleus dans notre vie ici-bas. Il ne nous a pas promis des sentiers jonchés de fleurs tous les jours de nos vies. Dieu ne nous a pas promis le soleil sans pluie. Eh bien, il ne nous a pas promis non plus de la joie sans qu'il y ait de la tristesse, ni la paix sans qu'il y ait la souffrance. Mais, ce jour-là, l'hiver sera passé et les pluies seront terminées. Les cieux seront sans nuages et dénués de tristesse. Alléluia. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance. Car ce qui était autrefois l'hiver et la pluie a définitivement disparu. Die Offenbarung, c'est-à-dire Apocalypse, chapitre 21, verset 4. Nous arrivons au verset 12. On voit des fleurs éclore à travers le pays. Et on voit le temps, là, il y a le temps de chanter qui est revenu. La voix des tourterelles, elle retentit dans nos champs. En effet, le printemps glorieux, c'est le temps de la résurrection. C'est le temps lorsque les semences qui étaient mortes reviennent en nouveauté de vie. Les fleurs apparaissent, parfois même à travers la neige, comme les personnages. Les oiseaux reviennent avec leur chant qui nous égaye. La colombe commence à roucouler. Les premiers nids apparaissent, qui se remplissent peu à peu de petits œufs. L'air commence à se réchauffer, même si la chaleur de l'été n'est pas encore là. Pourtant, autour de vous, vous sentez la vie. Notre printemps, à nous, débutera le matin de notre résurrection. Je répète, notre printemps, à nous, à vous, débutera le matin de notre, de votre résurrection. Je suis d'ailleurs si heureux que le Seigneur soit ressuscité au printemps. C'est en effet le temps parfait pour imager la résurrection du Seigneur. Mais il représente également la résurrection des saints. Nous nous lèverons, est-il dit, et nos corps seront changés. Le putrescible aura revêtu l'imputrescibilité et ce qui est périssable sera revêtu d'inaltérabilité. Voyez-vous, lorsque ce corps qui est corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Oui, la victoire de la résurrection. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 54. Il est dit au verset 13, sur les figuiers, les premiers fruits mûrissent. La vigne qui est en fleurs, exhale son parfum. Lève-toi, mon ami, et viens. Oui, viens, ma belle. Quand les disciples interrogèrent le Seigneur, dis-nous, quand cela se produira-t-il et à quel signe reconnaîtront-on que tous ces événements seront prêts de s'accomplir? Selon saint Marc, chapitre 13, verset 4. Eh bien, parmi les choses qu'il leur a confiées, il leur raconte la parabole du figuier. Que l'exemple du figuier vous serve d'enseignement. Quand ses rameaux deviennent tendres et que ses feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez se produire ces événements, sachez que le Fils de l'homme est proche, comme aux portes de la ville. Alors, on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges rassembler ses élus, et cela des quatre coins de l'horizon et d'un bout à l'autre de l'univers. Saint Marc chapitre 13, verset 28, verset 29, et notez le verset 26 et le verset 27 de Saint Marc chapitre 13. Certains érudits pensent que le figuier est un type d'Israël et que le retour des Juifs en Terre Sainte, ainsi que la création de l'État d'Israël, sont des accomplissements prophétiques de cette parabole. Lorsque il est question des feuilles du figuier qui poussent, et cela est très possible. Si tel est le cas, alors nous savons que sa venue est proche, même peut-être imminente. La vigne en fleur exhale son parfum. En effet, en parcourant des régions de vignobles en voiture, l'automne venu, eh bien je pense fréquemment au moment où le raisin était mûr, quand la senteur exquise de ses fruits se répandait dans les champs, portée jusque sur la route dans notre voiture. Nous savons alors que le raisin était mûr à cause du merveilleux parfum que nous pouvons sentir. La vigne parle de la communion du chrétien. En effet, elle parle de la communion du chrétien avec le Seigneur, et le raisin est le fruit qui résulte de cette communion-là. À cet égard, les fruits de nos vies devraient répandre leur parfum vers tous ceux que nous croisons. Quand nous allons faire nos commissions, quand nous allons à quelque part, ou que nous nous asseyons pour boire un café. Ensuite, le verset 13 dit encore, « Lève-toi, mon ami, et viens. Oui, viens, ma belle. » Une fois de plus, tout nous rappelle sa venue prochaine. Lorsque sur les figuiers, les premiers fruits mûrissent et que la vigne en fleurs exhale son parfum, quand tout sera prêt pour son avènement, alors il paraîtra. Verset 14. Là, il est dit au verset 14, « Ma colombe, nichée aux fentes du rocher, cachée au plus secret des parois escarpées, fais-moi voir ton visage et entendre ta voix, car ta voix est bien douce et ton visage est beau. » En effet, lorsque Yahvé l'Éternel a voulu montrer son amour à Moïse et le récompenser pour son obéissance et son amitié envers lui, il lui réservait une belle surprise bien particulière. Adonaï lui dit ceci. Il y a ici un lieu tout près de moi. Tiens-toi debout sur le rocher et quand ma main passera, je te mettrai dans le creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Puis je retirerai ma main et tu me verras de dos, mais personne ne peut me voir de face. Exode chapitre 33, versets 21 à 23. Oui, chers amis, nous savons tous que Moïse était un véritable ami intime de l'Éternel. La sainte parole de Dieu nous confie. L'Éternel s'entretenait avec Moïse directement comme un homme parle avec son ami. Exode chapitre 33, verset 11. Cette amitié et cette intimité que Moïse avait avec l'Éternel, nous pouvons tous en jouir. Quel est ce rocher qui cache ceux qui sont près du Seigneur? Dans Deutéronome, au chapitre 32, versets 3 et 4, nous lisons « Célébrez, célébrez la grandeur de notre Dieu, il est comme un rocher. » Dans le psaume 18, verset 2, David dit aussi « L'Éternel est ma forteresse, il est mon rocher, il est le roc solide où je me réfugie. » L'Éternel plaça donc Moïse dans le creux du rocher parce que celui-ci avait supplié Dieu de lui montrer sa gloire. Ce verset contient un secret, la faille. Ou le creux du rocher, c'est un lieu caché en Dieu où il révèle sa gloire aux rares personnes qui disent avec Moïse, « Permets-moi de contempler ta gloire. » Exode 33, verset 18. N'y avait-il pas à cette époque de vaillants disciples de l'Éternel dans le camp d'Israël? Toujours est-il que Moïse, à cause de sa soif et de son ardent désir, de plus encore, il a été caché dans le creux du rocher. Là, il a reçu la révélation de la gloire de Dieu. Oui, il cache mon âme dans le creux du rocher, qui apporte de l'ombre à un pays desséché et assoiffé. Il cache ma vie dans les profondeurs de son amour. Il me couvre là de sa main et me couvre là de sa main. La colombe, elle est donc cachée au plus secret des parois escarpées. Des parois escarpées. Eh bien, ce texte peut aussi, dans ce cas-ci, il peut être traduit comme dans Ézéchiel, chapitre 38, verset 20, « Murailles, parois des rochers ou falaises selon diverses versions. » À l'époque où ce verset a été écrit, les lieux élevés étaient utilisés comme des tours fortes pour combattre ou comme étant des lieux de refuge et de sûreté. Ces endroits servaient donc également de cachette. En période de trouble, alors que Satan fait la guerre à notre âme aussi, et je me rends compte à notre corps, et cherche à détruire notre témoignage chrétien, à nous ôter le salut, nous avons un refuge en Dieu. Il est une tour de salut pour son roi, est-il dit dans 2 Samuel, chapitre 22, verset 51. Et ce furent les dernières paroles de David dans 2 Samuel, chapitre 23, verset 1. Si le roi David avait besoin de se réfugier dans la tour du salut, à combien plus forte raison devons-nous le faire et devons-nous abriter dans des lieux cachés dans le Christ Jésus, notre Sauveur et Seigneur? Dans le psaume 61, verset 3, nous lisons que Dieu est une tour forte, un bastion face à l'ennemi de nos âmes. Ensuite, il est dit, fais-moi voir ton visage, fais-moi voir ton visage qui est beau. Tant de chrétiens n'enlèvent jamais leur regard vers le Seigneur. Ils ne l'élèvent jamais. On regarde par terre, on regarde la pointe de nos souliers, mais rarement nous élevons notre regard vers notre Sauveur et Seigneur. Il est certes bon de courber nos têtes en sa présence, car cela est un acte d'humilité. Mais le Seigneur aimerait parfois également que nous élevons nos visages devant lui et que nous lui offrions ou offrons un grand et un beau sourire. Il vous dit, fais-moi voir ton visage, car ton visage est beau. Oui, il aime nous contempler, et quand nous élevons nos regards vers lui, eh bien nous sommes beaux à ses yeux. Voyez-vous, lorsque Moïse a vu le Seigneur, il est dit que son visage est devenu brillant. Combien de chrétiens ont le visage rayonnant et qui brille quand ils quittent la présence de Dieu et la prière? Oui, ils n'ont souvent jamais appris à élever leur visage devant la face du Seigneur. Ils n'ont jamais laissé sa gloire descendre sur leur visage et de rayonner. J'élèverai, est-il dit, mes yeux, c'est ce que disait le psalmiste, j'élèverai mes yeux. Il y a un temps pour courber nos têtes, c'est vrai, mais il existe également un temps pour élever littéralement nos regards vers l'Éternel des armées. Le verset 14 termine et il dit, fais-moi voir ton visage et entendre ta voix, car ta voix est bien douce. Eh bien, chers amis, c'est l'heure de prier. Oui, c'est l'heure de prier. Réfléchissez un peu. Le Seigneur aime entendre nos voix. Il aime entendre ta voix. Il les trouve douces et agréables. Or, beaucoup parmi vous savent prier, mais bien peu savent louer ou adorer. Nous devons prier, c'est notre devoir. Mais n'oublions jamais de le louer, de l'adorer, de le remercier pour tout ce qu'il fait pour nous. Je le remercie pour le miracle qu'il fait que je peux parler maintenant, malgré que j'ai échappé au pire. Or, beaucoup parmi vous savent prier. N'oubliez jamais, quand vous avez un moment, de le louer, de le remercier. Certains disent, « Oh, je le loue au fond de mon cœur, c'est déjà pas mal. Je n'ai pas besoin de le faire à voix haute, et il connaît très bien mon cœur. » C'est vrai. Vous pouvez dire, « Il est, pour moi, très clair que la personne qui parle avec une telle ignorance, car il faut être un peu ignorant, ne vit pas toujours dans l'approche intimité d'Adonaï. Elle n'a peut-être ignoré, on va savoir, elle ne vit peut-être pas dans l'approche intimité d'Adonaï. Elle n'a peut-être aucune idée de ce que l'Éternel attend d'elle. Or Dieu dit, fais-moi entendre ta voix. Quand il est possible, c'est pas toujours possible, c'est vrai. Il entend aussi notre voix dans notre cœur. C'est vrai également. Contrairement à l'ennemi, il peut lire nos pensées. Gloire à Dieu, heureusement pour nous. Mais il n'est pas défendu de faire entendre notre voix. Il ne dit pas « Je veux voir ton cœur et cela me suffit ». Tu peux parler de ce que tu désires, mais il est inutile de me parler ou même de parler de moi. Il ne dit pas cela. Ouvrez donc votre bouche, chers amis, pour le louer et l'adorer. En échange, il vous prêtera une oreille attentive. Votre voix sera douce à ses oreilles, alors que vous élèverez son nom dans l'adoration. Nous arrivons au verset 15. Prenez-nous les renards qui ravagent nos vignes quand elles sont en fleurs. Les renards ne sont pas des animaux très dangereux, mais sont connus pour leur ruse. Le Seigneur met donc en garde son épouse que nous sommes face à toute la petitesse, la fourberie, face à la sournoiserie, à tout ce qui est insidieux, pernicieux, même perfide, qui entre silencieusement dans la vie du chrétien pour dévorer sa vigne. Jésus a dit, « Moi, je suis le cep. Vous êtes les sarments, demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur le cep, eh bien de même, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. » Saint Jean, chapitre 15, verset 5. Et je devrais dire aussi le verset 4 de Saint Jean, chapitre 15. Donc l'époux, il nous met en garde vis-à-vis des choses qui paraissent insignifiantes, mais qui tout de même dévorent la vigne en tuant les sarments. Nous sommes donc invités à de la prudence, à veiller, de peur de laisser ces choses d'apparence tellement insignifiante, de peur de les laisser détruire notre communion avec Dieu. Il ravage nos vignes, il dit, quand elles sont en fleurs. Il peut déjà voir le fruit que nous portons et il le protège face au danger. Que ces vignes en fleurs sont précieuses, le fruit de la vigne que nous portons, parce que nous demeurons en lui, nous demeurons en Jésus-Christ. Le verset nous dit, le verset 16, « Mon bien-aimé, il est à moi, et moi je suis à lui. Lui qui paie son troupeau sur les prés, plein de lys, sur les prairies, on pourrait dire, plein de lys. Or, de quel lys est-il question là? Il faut savoir que les lys poussent parmi les ronces, on l'a déjà dit. chapitre 2, verset 2. Il vient donc et descend pour marcher parmi nous, en dépit du fait que nous croissons au milieu des épines de la vie, qu'il est bon de sentir qu'il nous appartient et que nous appartenons à lui. Il est en effet à moi, et je peux être en communion avec lui parce qu'il m'appartient. Je possède son amour maintenant, parce qu'il est réellement mien. Il nous possède aussi. Il est le maître de notre communion parce que nous sommes à lui. Il a droit à mon amour parce que je suis à lui. Rends-moi captif, ô Seigneur, et alors je serai libre. Il sombre dans les alarmes de la vie lorsque toute seule lorsque toute seule ou tout seul, je me tiens, emprisonne-moi entre tes bras, alors ma main sera puissante. Mon cœur est faible et languissant jusqu'à ce qu'il trouve son maître. Le cours de ses actions est incertain. Il varie au gré du vent et n'est pas libre d'agir jusqu'à ce que tu t'en barres. Que tu puisses t'emparer de ses chaînes, rends le captif par ton incomparable amour, et il régnera sans connaître la mort. Ma volonté ne m'appartient pas tant qu'elle n'est pas à toi. Pour atteindre le trône royal, elle doit donc renoncer au pouvoir. Elle ne peut rester debout au milieu des conflits qui s'opposent que lorsque sur ton sein elle repose et qu'elle a trouvé en toi seul, sa vie. En effet, la véritable appartenance, c'est de s'abandonner et de savoir renoncer à tous ses désirs et à sa propre volonté, de renoncer à ma propre volonté. Lorsque nous avons découvert la puissance cachée dans la véritable soumission, nous pouvons alors dire « Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui ». Et cela pour terminer, nous avons maintenant pour terminer le verset 17 du chapitre 2, vous l'avez compris. Et quand viendra la brise et la tombée du jour, et quand s'estomperont les ombres, reviens, reviens au toi, mon bien-aimé, et pareil à la gazelle ou à un jeune faon sur les monts escarpés. En effet, rien ne permet d'indiquer ce que étaient ces monts escarpés, mais il ne le fait pas, il fait pas de doute là-dessus que c'est la même montagne qui est présentée au verset 8, je pense. Et une nouvelle fois, l'épouse aspire à la fin de cette longue nuit d'attente. Elle attend donc ardemment la venue de l'aube quand il viendra à elle. Alors, toutes les ombres s'enfuiront, elles s'enfuiront devant son arrivée. Elle l'appelle, et elle l'appelle une ultime fois à venir rapidement, comme le cerf ou la biche. Et il dit, viens vite, mon bien-aimé. Et c'est tout ce qui compte. Amen. Chers amis, nous allons terminer par la prière. Et il est merveilleux de nous approcher de notre bien-aimé Sauveur et Seigneur. Vraiment. Chers amis, étant donné, et c'est vrai, que selon des statistiques très élaborées, il y a toujours plus de malades, eh bien le Seigneur a mis dans mon cœur de terminer mes études avec une prière à l'intention de ceux qui souffrent. Donc, cette prière, elle est personnellement pour tous ceux qui souffrent et qui sont malades. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, merci car tu as donné ton Fils bien-aimé et nous pouvons dire de tout notre cœur, oui, Jésus-Christ est venu pour nous donner la chose la plus importante pour notre existence présente, mais surtout pour l'éternité qui concerne le salut de notre âme et de notre esprit. Ensuite, tu nous demandes avec ton amour incommensurable, veux-tu être guéri? Et nous te demandons pardon de tous nos doutes et de tout notre scepticisme. Et je dis maintenant, pour tous ceux qui ont écouté ce message, que j'ordonne solennellement, dans le puissant nom de Jésus-Christ, que soit chassé tout doute, que ça soit chassé tout scepticisme et toute incrédulité. Yahvé, l'Éternel, ne montre son amour, il ne le montre pas seulement à Moïse, il ne l'a pas seulement montré à son prophète bien-aimé, mais, vous le savez très bien, il l'a montré également par son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Et nous pouvons donc dire merci Seigneur, car tu guéris maintenant tous ceux qui humblement t'invoquent de tout leur cœur de les restaurer, corps, âme et esprit. Nous te remercions pour ta compassion et nous ne voulons pas oublier de te demander pardon, pardon de tous nos péchés, pardon de mes péchés même, parfois inconscients. Et nous demandons pardon pour tous ceux à qui nous avons fait du mal. Même, et je répète, ce qui a peut-être pu être fait parfois, involontairement. Merci au Seigneur, merci notre Sauveur, d'être présent avec nous, en nous, par l'Esprit Saint. Louange, honneur, soit rendu à toi, Père, Dieu, notre Papa, Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Et merci pour le Saint-Esprit. Amen.